Bonjour Gilles Boyer.
Bonjour à vous.
Vous êtes donc le co-auteur de ce livre écrit à quatre mains ou à deux mains, parce qu'en général on écrit avec une seule, avec Édouard Philippe, intitulé « Impressions et lignes claires » aux éditions Jean-Claude Lattès. Édouard Philippe n'a quasiment pas pris de notes pendant ces 3 ans à Matignon. Est-ce que ce sont les vôtres qui ont permis la rédaction de ce livre ?
Non, ni l'un ni l'autre n'avons pris de notes pendant ces 3 années qui étaient très intenses, beaucoup trop sans doute pour se lancer sur le moment dans l'introspection. On a écrit ce livre à partir de nos ressentis, de nos impressions, comme le titre l'indique, de nos souvenirs avec des lieux, des rencontres, des crises, des moments qui nous ont particulièrement marqués. Et ça nous semblait important à un moment donné de les coucher sur le papier, mais pas pendant, plutôt après avec ce qu'il en reste, qui est sans doute le plus important.
Et en écrivant 3 ans après, vous étiez sûrs tous les deux de ne pas, même peut-être involontairement, réinventer un peu l'histoire ?
En tout cas, on livre nos ressentis, et qui, comme tous les ressentis, sont discutables, et qui, sans aucun doute, d'ailleurs, seront discutés. L'exercice de tenir tous les jours un journal, il est éminemment respectable, certains le font très bien, mais est-ce qu'il a, au fond, plus de valeur ? Parce que lorsqu'on écrit dans la même journée, on manque parfois aussi de recul sur les événements, et c'est ce qu'on cherchait aussi à faire.
Vous dites qu'Édouard Philippe, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, a eu peur, et que vous-même, vous avez eu peur pour lui.
Oui, ce sont des moments. C'est un sentiment qu'en politique on n'avoue pas souvent, hein, mais je pense que c'est un sentiment qui est plutôt sain, comme le doute du reste, et comme parfois savoir admettre qu'on ne sait pas, savoir admettre son ignorance face à un problème inédit. Je pense que ce sont des sentiments très humains que tout le monde rencontre dans sa vie quotidienne, et il n'y a aucune raison que les dirigeants politiques en soient exempts.
Votre livre est un livre sur l'exercice du pouvoir, et vous racontez justement ce vertige qui peut s'emparer d'un Premier ministre qui arrive à Matignon, et notamment parce que rien n'est fait pour organiser la transmission du pouvoir. Édouard Philippe est nommé chef du gouvernement et on ne lui remet aucun dossier, aucune note sur les sujets à traiter en priorité, sur les affaires en cours. Et ça n'est pas d'ailleurs un cas unique, c'est toujours comme ça.
Écoutez, nous ne l'avons vécu qu'une fois, mais je crois en effet que ça se passe toujours comme ça, en tout cas au niveau du Premier ministre. Évidemment, il y a des collaborateurs et il y a des fonctionnaires qui assurent la permanence de l'État. Donc on part jamais d'un terrain en jachère. Simplement, c'est vrai que lors d'une alternance politique, lors d'un changement politique, il est assez naturel qu'on parte d'une page blanche. Oui.
Alors comment on fait quand on arrive dans le bureau de Matignon et que, au fond, on ne sait pas forcément par quoi commencer ?
La première chose qu'Edouard Philippe a fait, on le raconte dans le livre, c'est de choisir son directeur de cabinet, qui est la tour de contrôle de Matignon, et ce directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas, a lui-même constitué l'équipe des collaborateurs autour du Premier ministre. Le choix avait été fait de constituer une équipe avec des collaborateurs communs à l'Élysée et à Matignon, pour éviter ce qu'on avait parfois constaté dans le passé, des lignes de friture entre les deux maisons. Et donc on constitue son équipe, et puis petit à petit les notes arrivent, les arbitrages à rendre arrive, les réunions se multiplient et tout se met en branle. Mais c'est vrai qu'Edouard avait constaté que c'était déconcertant. Le premier jour, le bureau est vide, il s'installe et au fond, on ne sait pas toujours très bien par quoi commencer.
Vous avez vécu aux côtés d'Edouard Philippe 3 années très mouvementées, les gilets jaunes notamment, la réforme des retraites et puis bien évidemment l'épidémie de Covid. Est-ce que vous avez eu parfois l'impression d'avoir dû être plus souvent en réaction qu'à l'initiative ?
Au début du quinquennat, beaucoup de choses ont été faites pour mettre en œuvre le projet du président de la République. On l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais des réformes extrêmement ambitieuses, extrêmement difficiles ont été mises en œuvre. Mais la vie politique, la direction d'un État, le gouvernement, c'est aussi la gestion des imprévus. Personne ne pouvait prévoir le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il a émergé. Et personne ne pouvait évidemment prévoir l'épidémie de Covid. Et faire de la politique, c'est aussi s'adapter aux événements.
Quels sont les moments les plus durs que vous avez vécu à Matignon ?
Écoutez, c'est difficile de les classer, mais enfin, évidemment, l'apparition de la première phase de la crise du Covid il y a maintenant plus d'un an, lorsqu'on fait face à une épidémie d'une ampleur inédite qui oblige à prendre des décisions et des mesures inédites en temps de paix et même parfois en temps de guerre, c'est évidemment pour tous ceux qui gouvernent des moments toujours très difficiles.
Vous vous intéressez dans votre livre à la différence entre gouverner et présider, et c'est une différence qui est particulièrement marquée dans le système politique français.
Oui, notre système a une singularité, non pas d'avoir deux têtes pour l'exécutif, le président et le premier ministre, ça existe dans beaucoup de pays, mais la France est un des seuls pays où les deux disposent de pouvoirs importants. Évidemment avec la prééminence du président qui est élu pour mettre en œuvre son projet, mais aussi avec le premier ministre qui est le chef de la majorité et le chef de l'équipe gouvernementale. Donc cette organisation est très particulière et selon les personnes, elle a fonctionné différemment, mais selon nous, elle contribue un très bon équilibre de nos institutions. On décrit parfois notre système comme hyper présidentiel. À notre avis, rien n'est plus faux. Le président, évidemment, c'est lui qui décide. C'est lui qui a été élu pour décider. Et il définit la destination. Et la destination, c'est le plus important. Et le Premier ministre est là pour mettre en musique et pour définir l'itinéraire, pour arriver à la destination. Et les deux sont des rouages essentiels.
Est-ce que ça n'était pas compliqué pour vous d'être à la fois le conseiller spécial du Premier ministre, mais aussi un ami très proche ?
Ça aurait pu être compliqué. Il s'est trouvé que nous l'avons en quelque sorte rendu très simple. C'est vrai que l'expérience professionnelle que nous avons vécue, que j'ai vécue aux côtés d'Edouard, était au confluent du politique, du professionnel, du personnel et de l'amical. Ça aurait pu la compliquer. Je trouve que ça l'a simplifié et ça l'a rendue extrêmement enrichissante, à la fois professionnellement, politiquement et aussi amicalement.
Votre livre alimente, et vous le savez évidemment, les supputations sur les ambitions d'Edouard Philippe pour 2022. Il est d'ailleurs question de la manière dont Emmanuel Macron s'est lui-même lancé dans cette aventure, avec une formule qui est que Emmanuel Macron a su ne pas attendre son tour. Ne pas attendre son tour. Il l'a pris. Attendre son tour, c'est laisser la place aux autres. Est-ce que cette idée-là aujourd'hui est un peu dans la tête d'Edouard Philippe, qu'il ne faut pas forcément attendre son tour, mais le saisir?
Nous décrivons dans le livre la manière dont nous avons vécu la campagne électorale précédente, la campagne présidentielle, avec l'audace dont a fait preuve le président de la République pour casser les partis politiques traditionnels et être élu. Mais je trouve qu'on tombe souvent dans notre pays, dans le travers, de comparer l'élection qui arrive avec les élections qui ont précédé. Parce que lorsqu'on regarde bien, aucune élection ne ressemble vraiment à une autre.
Merci Gilles Boyer. Merci, bonne journée.
Merci à vous. Merci à vous. Fred.